Une journée en utopie, une création sonore réalisée par La Turbine et enregistrée lors de la deuxième édition du festival Utopie.0 le 17 septembre 2022 au lieu utile à Bouguenay.
La foudre a résonné comme des coups d'épée, comme une mélodie. Laisse cette foudre en fer pour briser.
Conçue et racontée par Sofia Pavanini et Julia Passo.
Avec les voix de celles et ceux qui ont traversé cette journée en utopie, public, bénévoles et artistes.
Bouguenay, 17 septembre 2022. Une oasis d'un hectare, peuplée d'arbres centenaires, émerge d'une zone résidentielle à quelques arrêts de tramway du centre-ville de Nantes. C'est le lieu utile, un tiers-lieu dédié à la transition écologique. C'est ici qu'a eu lieu la deuxième édition du festival Utopie.0, organisé par La Turbine.
Qui est à quelle heure du coup? 17 ou
17h.
Ouais, l'an
passé, à 17h30.
La Turbine, c'est un collectif nantais qui a pour objectif d'inspirer et de mettre en mouvement pour créer un futur désirable. Et ce, à travers des récits et des expériences artistiques et scientifiques.
On essaye d'insérer l'arbre.
Tu peux, ouais, tu peux même le mettre un peu au-dessus, le voile. Encore, parce que tu as les branches qui sont vraiment hautes.
Le mot « utopie » a été souvent interprété comme « ce qui n'a pas de lieu », « ce qui n'existe pas ». Mais ici, il serait plutôt à considérer comme « ce qui n'est pas encore advenu ». De ce point de vue-là, l'utopie devient un champ de possibles et non un rêve irréalisable. Toute l'année, le collectif produit des contenus éditoriaux comme des podcasts, des articles et des newsletters. Il propose aussi des ateliers et crée des performances art et sciences. Tous les deux ans, le festival Utopie.0 vient marquer un temps de célébration et de partage lors d'une journée en immersion dans un site naturel remarquable. Julia Passo, fondatrice et directrice artistique de La Turbine, nous en dit quelques mots.
Le festival Utopie.0, c'est une journée festive pour s'inspirer et se mettre en mouvement. Et surtout, imaginer un autre rapport au vivant. En fait, on a conçu ce temps comme un moment d'immersion et d'expérience de ce que pourrait être une autre manière de vivre et d'être ensemble. C'est surtout une formidable occasion pour nous d'aligner le fond et la forme de notre projet, puisqu'on y présente à la fois nos créations et ateliers, en plus de quelques autres artistes invités, et on le fait de manière la plus sobre possible. L'événement se passe en journée, avec le minimum de technique, en utilisant des matériaux de récupération pour la scénographie, en proposant une restauration végétale, bio, locale, de saison, et en ayant une gestion des déchets extrêmement raisonnée et limitée. Sur le contenu, on propose des lectures participatives, une balade théâtrale, une lecture musicale, une expo photo, une session d'écoute de podcast qui donne l'occasion d'échange avec le public, des ateliers, des jeux et des expériences surtout immersives sur le climat et le vivant. Et puis évidemment de la danse et un concert pour terminer la journée. C'est un programme qui est très riche mais qui laisse aussi le temps pour la rencontre et vraiment l'immersion dans ce lieu.
Oui, c'est ça,
exactement.
Oui.
Qui
s'appelle Elise. Cool de te revoir.
On passe la journée ensemble.
Oui, c'est ça. Et puis là, tu as le jeu de...
Après une première édition à Vigneux-de-Bretagne en 2019, le festival s'est rapproché de Nantes, au lieu utile justement. Ce tiers-lieu accueille principalement une école associative. Fatou, membre du collectif du lieu utile depuis sa création, nous raconte cette aventure.
Alors, le lieu utile, c'est un collectif avant tout de citoyens, de parents, mais pas que. On s'est retrouvés en 2016 avec cette idée de se dire mais quelle planète on allait laisser à nos enfants. De réfléchir aussi autrement sur la manière d'éduquer. Avec ce collectif, on s'est constitué en association. Suite à ça, on a essayé de mettre en place des ateliers parents-enfants aussi, la communication non-violente pour être connue aussi du public et pour après, dans l'espoir, de trouver un oasis avec en son cœur une école.
Mais où?
C'est un projet qui résonne avec l'ADN de La Turbine. Écologie et citoyenneté, expérimentation et partage.
On avait vraiment envie de cette ouverture vers l'extérieur. Pour nous, c'était vraiment très important. C'est pas on monte notre projet de notre côté et nous on fait comme ça et on va comparer avec les autres. Non, au contraire, on est partenaire pour tout le monde, pour le réseau ici de la ville de Bognay, mais aussi pour Nantes, mais pour d'autres villes de la France. Je trouve ça chouette de voir le lieu où ma fille, voilà, qu'elle le fréquente tous les jours de la semaine, et là de voir le lieu qui est investi d'une autre manière par d'autres adultes. Je voyais tout à l'heure juste un couple qui était posé sur les rondins de bois qui se massaient. Voilà, juste profiter de l'instant présent, profiter de la nature et juste être là, quoi.
Utopie.0, c'est un drôle de nom pour un festival et surtout pour une deuxième édition.
En géographie, on utilise le terme point zéro pour désigner un repère pour calculer les distances kilométriques. C'est donc un point de départ. En revanche, en physique quantique, le point zéro, c'est la rencontre de toutes les énergies au sein d'un atome, une sorte d'œil du cyclone, un endroit où, finalement, toutes les énergies se rassemblent, s'équilibrent, s'harmonisent. On parle d'un point de convergence à ce moment-là.
Utopie.0, ce serait donc placer l'utopie à la fois comme point de départ et point de convergence, de rencontre. La recherche d'un point d'équilibre éphémère et fragile. C'est une journée suspendue, projetée dans un avenir plus doux. Et c'est aussi l'occasion de venir déposer ses colères et ses peurs au micro de Cléa Mosaïque.
Ma plus grande peur face au monde qui change, c'est que les personnes qui ont le pouvoir de modifier les choses ne font pas ce qu'il faut. Du coup, quand nous, à notre petite échelle, on essaye de faire bouger des choses, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose.
Ma plus grande colère, c'est de voir des gens qui vivent les uns à côté des autres et qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas et qui se méprisent alors qu'il y a une richesse chez l'être humain qui est extraordinaire et qui demande qu'à être explorée. Il suffit juste de se poser un moment et d'échanger avec ces différentes âmes.
Se rendre compte, en fait, en vivant dans des lieux alternatifs, en proposant des choses pour que le monde change, c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a aussi tout l'opposé qui existe et qu'il y a encore énormément à faire. C'est à ce moment-là que je suis en colère contre l'univers qui bouge pas assez vite.
Ouais, moi je crois que si j'avais des colères, ça serait ça aussi, quelque chose du domaine de la lenteur, de la prise de conscience tellement lente. On a été capable d'aller tellement vite pour aller sur la Lune et tu te dis là, on est face à des responsabilités, je dirais même vitales, quoi. Il en dépend de nos vies aujourd'hui, quoi. Et c'est tellement long, long et lent.
Moi, j'ai un peu peur de l'individualisme. Je crois que c'est ça qui me semble prendre une très très mauvaise tournure en ce moment. Et que les gens se replient beaucoup sur eux et arrêtent d'essayer de connecter avec l'autre. On parlait de lenteur, mais du coup, moi, c'est plutôt l'accélération du rythme, un peu compulsif dans les relations, dans les rapports humains. On prend plus vraiment le temps de plonger dans les autres et de partir à l'aventure des gens. Et je trouve que du coup, ça crée beaucoup, beaucoup de solitude et de détresse.
Solitude, détresse, colère. Comment prendre soin de celles et ceux qui se sentent éco-anxieux et éco-anxieuses? C'est tout l'objectif de cette journée. Rassembler dans un même espace-temps des citoyens et des citoyennes, des artistes, des chercheuses et des chercheurs, pour créer un dialogue autour de l'utopie. Pour proposer aussi un pas de côté pour nourrir nos imaginaires, pour donner envie d'écrire ensemble de nouvelles histoires, des histoires positives et joyeuses. Cela passe par la compréhension des enjeux, notamment face au dérèglement climatique. Et c'est le but de l'atelier Fresque du climat, un jeu coopératif proposé lors de cette journée.
C'est l'origine, il disait quoi dans la carte? C'est la température de hausse de la température de l'océan, non?
L'augmentation, ouais, l'activité humaine ainsi que l'augmentation des températures air et océan.
Okay. Donc c'est là, c'est entre ces. Je vais mettre comme ça pour mettre entre ces deux points.
Voilà, moi je viens juste après parce que j'ai sécheresse multipliée.
Épuisement des nappes phréatiques.
Qui vient du fait que la perturbation du cycle de l'eau, qui est là, peut apporter beaucoup plus d'eau dans certaines zones et moins dans d'autres. On parle plus de la quantité de pluie, en fait, qui est moins régulière et qui peut être trop abondante quelque part et pas assez.
Ça, c'est vraiment une conséquence.
Pas assez ailleurs. Ouais. Et après, effectivement, les nappes phréatiques, du coup, s'il pleut moins,
elles ne se remplissent plus.
Ouais. Mais Utopie.0 se veut aussi comme l'occasion d'interroger de sujets de société et de remettre en question nos représentations au prisme de nouvelles découvertes scientifiques.
La préhistoire, en tant que discipline scientifique, naît au milieu du 19e siècle en Europe.
Mais Utopie.0 se veut aussi comme l'occasion d'interroger des sujets de société et de remettre en question nos représentations au prisme de nouvelles découvertes scientifiques. Comme avec la lecture musicale Labo, récit des origines, qui interroge les imaginaires de genre à travers l'archéologie.
Nous sommes à l'aube d'une révolution. De la dame du cavillon, qu'on pensait être l'homme de menton, en passant par les femmes, artistes préhistoriques, dont la présence dans les grottes ornées est attestée par les récents travaux des archéologues.
Sur scène, Vincent improvise en live sur une guitare électrique allongée sur une table, qu'il fait sonner avec des brosses et des pinces en tout genre. Lucie lit et dialogue avec la voix de Marilyn, chercheuse en archéologie du genre. Elle fait passer dans le public des petites amulettes, des Vénus, ces petites sculptures de corps de femmes préhistoriques retrouvées dans des grottes. Elle nous interpelle sur leurs fonctions, leurs origines, mais aussi les histoires qu'on a racontées à propos d'elles et qui ont forgé nos imaginaires sur les rapports hommes-femmes. Elle nous raconte aussi que de nouvelles découvertes scientifiques viennent bouleverser toutes nos croyances sur ces relations et nous propose ainsi un nouvel ordre imaginaire.
Avant que les femmes aient trouvé leur juste place dans l'histoire.
Réorienter notre imaginaire pour penser autrement notre relation au vivant, c'est aussi ce que François et Isabelle invitent à faire dans l'atelier « Des mots pour demain ». Assises dans une petite clairière au bord de la mare du lieu utile, une quarantaine de personnes écoutent des lectures d'extraits de textes, par exemple de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, de Chimamanda Ngozi Adichie, autrice nigériane, et de Corinne Morel-Darleux, éco-socialiste.
Donc on va écouter la première lecture issue d'un ouvrage peu connu de Cynthia Fleury.
Ces extraits sont lus par Isabelle. François, à son tour, propose de cueillir des mots dans ces textes en guidant les participantes et participants avec des questionnements.
En quoi la question de l'imaginaire suppose que nous interrogions les mots que nous utilisons à son propos ?
C'est pas rien les mots. C'est pas rien les mots, parce que les mots, ils véhiculent des représentations. Les mots, ils nous mettent en mouvement quand ils ouvrent le champ des possibles. Quelquefois, ils nous inspirent, quelquefois ils nous répugnent, les mots. Les mots, ils nous permettent de nous comprendre, ils nous permettent de voir le monde d'une certaine manière.
De petits post-it colorés viennent se poser sur une porte adossée à un grand chêne. Puis, par petits groupes, se composent des devises, des mantras pour le monde de demain, à partir de ces mots.
Appartenance.
Rupture.
Assertivité et inventivité.
Non-appartenance.
Réveil oppressant.
Se réveiller.
Révisiter notre lien au vivant, ce n'est pas seulement un exercice de pensée, c'est aussi une expérience sensorielle. C'est ce que propose Mélanie dans son atelier Constellation du vivant. Un peu à l'écart, auprès de la mare, Elle guide un petit groupe dans une expérience symbolique du rôle que chacun et chacune peut jouer au sein de l'écosystème global.
Donc moi c'est Nathalie, je viens de participer à un atelier, une forme de constellation du vivant avec Mélanie. On était dans une clairière magnifique parce que le soleil perçait, et elle était très accueillante. Et l'idée c'était d'aller chercher dans un premier temps ce qui nous rend vivants à l'intérieur, dans un second temps ce qui nous relie au vivant à l'extérieur. Ben, moi j'ai tout de suite enlevé mes flip-flops, enfin mes tongs en français. Je me suis mise pieds nus et je me suis laissée aller à ce qui venait de manière assez instinctive et sauvage. Voilà, donc ça j'ai adoré. Et puis l'enfant est venu jouer super rapidement, donc j'ai pris des bouts de bois, je l'ai encore là. Avec moi. Je suis allée faire un petit tour à voir ce qui se passait avec l'eau, à sentir, à écouter, à utiliser tous mes sens. C'était délicieux, voilà.
Et est-ce que tu as un rituel pour retrouver le vivant en toi ?
Ouais, j'ai de la chance d'habiter sur un écolieu et d'être à 1 kilomètre de l'océan. Bah, ce que je fais, c'est que je vais juste dans les dunes et sur la plage et je vais m'immerger dans l'eau ou je suis les pieds dans le sable. Enfin, je me mets au contact ou je vais marcher pieds nus. Même dans de la terre, en hiver humide, c'est hyper agréable. En fait, c'est automatique. Enfin, automatique, c'est immédiat plutôt. Quand je me reconnecte à la terre, il y a une reconnaissance qui se fait.
On commence à pressentir, à entrevoir l'utopie. Se reconnecter à la terre, exprimer notre reconnaissance, comprendre que nous, les êtres humains, ne formant qu'un seul et même corps avec l'immense richesse des animaux, des végétaux et des espaces naturels que nous habitons.
Attends. Avant d'affronter l'épreuve qui se présente devant nous, j'aimerais que nous nous mettions en cercle.
Surgissent à l'entrée du lieu utile deux drôles de personnages. Michael est le bousier, un insecte qui mange son caca, et Vladimir le Douglas, un grand pin importé des États-Unis.
Je sais que nombre d'entre vous ont été très 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 éprouvés. Je sais ce qui vous en a coûté de venir ici, en nombre, manger dans vos gamelles. C'est difficile debout comme ça passe, si je sais. Et cette grande et belle famille qu'on forme tous là. Cet écosystème qu'on partage.
Ensemble, avec beaucoup d'humour, ils invitent le public à les suivre dans un voyage initiatique à travers le parc du lieu utile pour libérer de la menace leur écosystème en péril et confronter l'humain à ses incohérences. Adultes et enfants les suivent et arpentent tous les recoins du parc et s'interrogent ensemble sur l'impasse écologique actuelle.
Douglas, conifère expatrié et fier de l'être. Avec mon clan, on vit ici depuis plus d'un demi-siècle. Et on en a plein les branches. Et si je veux encore que mon feuillage soit vert comme une rainette, va falloir se bouger la rondelle de bois fissa.
Ouais.
Alors je vais pas jouer au chef-ton, hein. Mais j'ai un peu plus de hauteur que certains ici d'entre vous et deux, trois pistes qui pourraient nous mener aux grands vomisseurs de noirceur.
Sous la grande tente, Sophia anime une séance d'écoute d'une sélection des podcasts de La Turbine. Elle est accompagnée de la danseuse Julie Nioche, l'une des personnes interviewées dans ces podcasts. C'est l'occasion finalement pour toutes les deux d'approfondir certains sujets évoqués dans l'épisode. Elles rebondissent sur ce qui a été enregistré quelques mois plus tôt et répondent aux questions du public. Spontanément, le dialogue se crée entre les voix enregistrées, Julie, Sophia et le public.
Comme on est tous et toutes rassemblés ici aujourd'hui pour un objectif commun, je voulais aussi vous demander si vous avez déjà ressenti cette force du collectif dans votre quotidien, dans votre travail, dans un projet. Voilà, si vous voulez partager quelque chose de cet ordre ou même commenter ce qu'on vient d'entendre.
Ce qui me frappe par rapport à des expériences que j'ai pu avoir, et ça résonne aussi beaucoup avec des chants comme ça, en chorale, multivoix, c'est que finalement, là où je pense qu'il y a une force du collectif, c'est quand chacun est à sa place et sait ce qu'il a à faire pour le collectif. Et c'est vraiment la caractéristique de, voilà, du chant choral, quoi. C'est que finalement, on joue sa partition, on sait qu'on est en harmonie avec les autres, et que le résultat, il est lié aussi à la confiance qu'on se fait les uns les autres, que quelque chose va aboutir, et c'est un peu cette magie que malheureusement on s'accorde peu dans nos quotidiens.
Et moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on doit toujours lutter contre ce réflexe de vouloir à un moment donné tout contrôler, et pas se dire bah juste en fait non, mais chacun va faire pour le mieux et ça va bien se passer. Et en fait, et chaque fois qu'on se dit à un moment donné on sait pas ce que doivent faire les autres, mais que chacun sait ce qu'il a à faire, En fait, c'est là que la magie se produit.
Ah, on a besoin de vos prénoms. Est-ce que tu peux redemander juste le prénom?
C'est quoi?
Un peu plus loin, l'équipe de la radio associative Jet FM prête des micros et invite les festivaliers et festivalières à partir en quête de son, à interroger les autres sur leurs utopies.
Voilà, tu tiens. Que la pluie de guerre mondiale.
C'est une belle utopie. Comment tu t'appelles?
Elliot.
Pour entendre le micro. Donc, toi, ton utopie, c'est qu'il n'y ait plus jamais de guerre mondiale?
Oui.
Tout en haut du parc, les tirages photos d'Aurélien sont accrochés, ou plutôt enlacés sur les troncs des grands arbres. On y découvre des portraits d'écologues avec des masques végétaux sur le visage. Et c'est au milieu de ces êtres naturels hybrides, mi-humains et mi-plantes, que les quatre danseuses du collectif M improvisent des danses selon des mots choisis par le public. Ça s'appelle l'an passé, c'est un moment de partage et d'inattendu. Les rencontres se font aussi spontanément tout au long de la journée, à table, lors d'un atelier, ou alors allongé dans l'herbe pour une pause de soleil.
Utopie, ça peut faire penser à quelque chose d'inatteignable, mais justement ça donne aussi de l'espoir pour construire des choses meilleures.
Mon utopie, ce serait la joyeuse interdépendance de tous les êtres, de toutes les espèces. Ce serait une très très grande utopie, ça. Que tout le monde puisse être attentif et prendre soin de chacun, qu'on vive vraiment dans cette conscience-là.
Papa, c'est quoi ton utopie?
Alors moi, mon utopie... Alors c'est une question qui n'est pas évidente, mais que chacun puisse être au plus proche de son âme, de ses aspirations. Et comme ça, le monde se porterait encore mieux.
Mon utopie, c'est celle de l'interbeing, de l'interdépendance, c'est-à-dire de sortir du monde de la séparation. Donc ça veut dire que j'essaye de voir au quotidien toutes les fois où je suis dans la séparation. Ça peut être du jugement, ça peut être du repli sur moi, ça peut être du refus de prêter, ça peut être tout ce dont on ne parle pas parce que c'est un peu honteux, et d'être dans la reliance. Et du coup, c'est pas du tout des idées abstraites, c'est vraiment du quotidien. Et je sais avec mes émotions quand je suis dans la reliance ou quand je suis dans la séparation, donc c'est pratique.
Si j'avais une baguette magique, j'essaierais de faire pousser plus haut les herbes et les plantes de mon école.
J'aime le changement, même si forcément ça va vers des choses qui sont terrifiantes. Je pense qu'il y a toujours de la poésie à trouver, il y a toujours une ressource à trouver, et il y a toujours une autre part de soi-même à rencontrer. Et le changement amène ça, et je pense que oui, on peut se concentrer sur ce qui ne va pas, mais il y a toujours quelque chose qui va aussi. Et je pense que c'est bien de se concentrer sur ce qui va et donner du pouvoir à ça. Et c'est comme ça que ce qui ne va pas aussi bouge et prend moins de place dans la réalité.
L'enfer des vivants n'est pas quelque chose qui existera dans le futur. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons en étant ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première est facile pour le plus grand nombre. Accepter l'enfer et en faire partie jusqu'à ne plus le voir. La deuxième est risquée et exige une attention et un apprentissage continu. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au beau milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer, lui faire place. Italo Calvino, Les villes invisibles.
Faire place à nos utopies, donc. Les écouter, les chérir, les partager, les faire grandir à partir du réel. Il existe un autre monde et il est dans celui-ci, nous dit Paul Éluard.
Je repars avec la sensation que les gens sont prêts à se mettre en mouvement et donc peut-être l'envie d'essayer de regrouper les gens pour former d'autres projets comme celui-ci. Je suis venue ici notamment pour le côté artistique et peut-être réimprimer ça dans mon corps. J'ai envie de repartir avec cette sensation de mouvement quoi, et la beauté.
s'inspirer et se mettre en mouvement, c'est le fil directeur de cette journée. Arpenter le lieu, faire un pas de côté, décaler son regard, se donner envie d'avancer ou de changer de direction, mais aussi envie de danser ensemble, puisqu'au fond, c'est ça, se mettre en mouvement. Les danseuses du collectif M nous entraînent dans une danse collective et sensorielle à la tombée de la nuit, avec une farandole qui arpente tous les recoins du lieu utile. Elle se transforme petit à petit en manifestation joyeuse qui atterrit sur la piste de danse où la musique mixée par la DJ Lost Imbé prend le relais pour terminer cette journée en mouvement. C'était une journée en utopie, une création sonore réalisée par La Turbine et enregistrée lors de la deuxième édition du festival Utopie.0 le 17 septembre 2022 au lieu utile à Bouguenais. Co-réalisation et voix, Sofia Pavanini et Julia Passo. Montage, Sofia Pavanini avec la complicité de Cléa Mosaïque pour les prises de son. Merci au public, aux bénévoles et aux artistes pour leurs témoignages et à tous les êtres vivants et aux lieux d'avoir contribué à la beauté de cette journée en utopie.
Si vous avez été inspiré par cette création sonore, abonnez-vous au podcast Utopie Pluriel et rendez-vous sur le blog de la turbine.org pour en savoir plus sur tous nos projets et la prochaine édition du festival.